Donc, je vais faire un petit point avec vous là sur le problème des nanoparticules, rapidement là aussi, parce que contrairement à ce qui vient d'être dit, dans le champ des nanoparticules, je parle bien du champ, les publications, elles, se font actuellement de façon exponentielle. Il suffit simplement de regarder dans les bases de données bibliographiques dont on dispose aujourd'hui pour voir fleurir ces publications qui sont avant tout des publications toxicologiques, puisque, comme vous le savez, et logiquement, il n'y a aucune étude épidémiologique sur les nanoparticules, puisque le recul n'est pas suffisant. Et il y a quelques données chez l'homme dont je vous parlerai très rapidement à la fin de mon exposé. Donc l'essentiel de nos connaissances sont des connaissances toxicologiques, mais ce sont quand même des connaissances qui sont maintenant assez détaillées. Voilà. Alors, je balayerai rapidement un petit peu certains éléments qui permettent de construire la discussion et qui, en tous les cas, permettent d'avoir un petit peu une idée de ce qui se passe actuellement dans la littérature et dans la littérature toxicologique en particulier. Alors, juste un petit rappel sur ce qu'on appelle actuellement nanoparticules. Donc, ce sont des particules qui sont manufacturées de façon intentionnelle et qui ont pour caractéristique principale d'avoir, lorsqu'elles sont sphériques ou lorsqu'elles sont allongées, un diamètre qui est inférieur à 100 nanomètres. Et juste en passant, la terminologie nanoparticule est habituellement réservée aux particules de cette dimension lorsqu'elles sont manufacturées, et le terme particule ultrafine est habituellement réservé aux particules de même dimension, mais qui sont émises de façon non intentionnelle, que ce soit de façon naturelle ou de façon anthropique. Là, aujourd'hui, je ne parlerai que des nanoparticules manufacturées. Alors, pourquoi les 100 microns? Ce n'est pas les biologistes qui ont proposé cette barrière de 100 microns, ce sont les scientifiques, les ingénieurs, parce que la matière va changer de propriété au-dessous d'une certaine taille, du fait justement de la répartition des atomes qui sont en surface d'une particule par rapport au nombre total d'atomes, et ceci, quelle que soit la nature chimique de ces atomes. Et vous avez ici un diagramme qui illustre très bien ce concept des 100 nanomètres. Voyez que vous avez une explosion du rapport de surface en dessous de 100 nanomètres entre les atomes qui sont présents en périphérie de la particule et l'ensemble des atomes qui constituent la particule. Donc, à partir du moment où vous avez cette réactivité nouvelle de la particule qui s'installe, cette particule va acquérir des propriétés tout à fait nouvelles et qui, sur le plan technologique, sont extrêmement intéressantes pour des tas d'applications. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a une recherche technologique extraordinairement développée dans ce domaine, compte tenu des propriétés de ces matériaux. Juste pour vous donner une petite idée de l'échelle, vous avez ici un épithélium bronchique, et je vous rappelle, l'épithélium bronchique est un épithélium cilié, enfin mucocilié, mais ce qui est intéressant, c'est les cils vibratiles. Et vous avez sur le schéma de gauche des représentations graphiques de particules en bleu qui sont donc à l'échelle de la cellule et des éléments de cette cellule. Et vous voyez que une particule de 100 nanomètres, hein, c'est la particule à l'extrême gauche, donc 0,1 micron, c'est quelque chose qui est à peu près de la dimension d'un cil d'une cellule ciliée. Donc c'est extrêmement petit par rapport à la cellule, et ceci va expliquer un certain nombre de comportements de ces particules vis-à-vis des cellules. Un autre fait très important quand on s'intéresse aux particules ultrafines ou aux nanoparticules, c'est que la masse n'a plus aucun sens. Et je vous rappelle que dans l'environnement ou dans le milieu de travail, On calcule les doses, on essaye de faire des métrologies d'exposition en fonction de la masse. Or là, sur ce diagramme, vous avez, pour un équivalent de masse qui est de 500 microgrammes de matière, lorsque cette masse est sous forme de particules de 10 microns, ben, vous voyez, ça représente à peu près une particule. Lorsqu'elle est sous forme de particules de 10 nanomètres, ça représente un milliard de particules. Et même chose en surface, vous avez donc une explosion de la surface spécifique lorsque vous allez réduire la matière en particules de 10 nanomètres pour une même quantité de masse de matière. Et ça, c'est extrêmement important parce que, évidemment, sur l'évaluation des relations dose-effet, c'est quelque chose qui est fondamental. Bon, très rapidement, je vais balayer ça très très vite. Les nanoparticules sont fabriquées principalement par deux méthodes. Soit on fragmente la matière, c'est le top-down, soit on construit la matière atome par atome, et c'est le bottom-up. Et c'est surtout d'ailleurs cette deuxième méthode qui est actuellement la plus utilisée. Alors l'intérêt de ces nanos, c'est qu'elles sont parfaitement caractérisées, c'est-à-dire que quand vous les sortez de votre procédé, vous savez quelle en est la composition chimique, vous savez quelle en est la distribution granulométrique et vous savez quelle en est la forme. Là, ici, par exemple, vous avez des formes sphériques, mais vous pouvez avoir des nanos de formes complètement différentes. Donc, j'insiste pas sur celles-là qui sont assez jolies, mais peu répandues. Par contre, je reviendrai sur les nanotubes, qui sont certainement les particules qui nous préoccupent actuellement le plus sur un plan toxicologique. Alors, ces nanotubes, ils peuvent être en carbone, comme cela, ils peuvent être en téflon, non, en polystyrène, comme cela, ils peuvent être en téflon, comme cela. Le génie chimique, actuellement, permet de faire varier tous les paramètres, aussi bien de composition chimique que de forme, et la liste est absolument infinie. Hein. Les possibilités de construction de matière de ce type de particules sont assez peu limitées. Alors, les applications, ben, il y en a déjà beaucoup. Et là, je prendrai essentiellement une application que vous connaissez plus particulièrement, enfin, de la vie courante. Donc, dans les voitures, par exemple, il y a beaucoup de nanoparticules. Là, ici, c'est l'exemple des nanopeintures. Ici, c'est l'exemple des pneumatiques dont William parlait tout à l'heure. Vous avez aussi tout le système des pots catalytiques qui est aussi basé sur justement les nanotechnologies. Vous avez dans la construction, donc dans le bâtiment, là aussi des applications, par exemple dans les verres auto-nettoyants ou dans les revêtements les revêtements routiers, donc possède des charges en nanoparticules utilisées essentiellement dans ces exemples-là pour leur application photocatalytique. Un autre exemple que vous connaissez tous, ce sont les crèmes barrières qu'on utilise en cosméto pour se protéger des ultraviolets. Et les oxydes de titane, qui sont essentiellement les oxydes de titane qui sont utilisés maintenant dans ces crèmes barrières, ont d'ailleurs été très soutenus par les dermatologues qui voyaient une utilisation qui permettait de mieux gérer le risque d'allergie qu'on avait avec des produits utilisés auparavant dans les crèmes barrières chimiques. Donc on reviendra toujours sur cet équilibre entre avantages et inconvénients de ces matériaux. Et puis, une autre application, alors qui est beaucoup moins importante sur le plan des tonnages, sur le plan de l'exposition de la population, mais qui est beaucoup plus emblématique, ce sont les applications des nanoparticules en médecine. Alors que ce soit dans les axes thérapeutiques, hein, comme vecteur de principe actif, pour permettre justement de passer des barrières qui sont spontanément peu perméable, et on parlait tout à l'heure de la barrière hémato-encéphalique. Court-circuiter la barrière hémato-encéphalique est possible justement avec les nanoparticules. Et par ailleurs, vous avez des imageries cellulaires qui sont formidables et qui permettent de faire des progrès considérables dans le diagnostic grâce à l'utilisation donc de ces nanomatériaux. Et juste ici, pour terminer ce parcours un petit peu industriel, vous voyez que dans les estimations actuelles de consommation, alors là, ici, c'est chiffré en millions de dollars, mais ça correspond, les nanoparticules sont encore assez chères, ça correspond aussi au tonnage. Vous voyez que c'est l'industrie automobile qui est encore de loin la plus importante consommatrice de nanomatériaux et de nanoparticules. Alors on commence à avoir déjà je m'adresse aux médecins du travail, on commence déjà à avoir des matrices emploi-exposition dans lesquelles, ici vous avez les familles de nanoparticules qui sont les plus utilisées en tonnage, hein, les oxydes de titane, la silice, les nanoargiles, les nanotubes de carbone, etc. Et on sait maintenant, on a identifié les secteurs où elles étaient produites, c'est marqué avec un petit P, et les secteurs où elles étaient utilisées, c'est marqué avec un petit U. Et vous voyez, il y a beaucoup plus de U que de P, bien entendu, et ce qui nous pose un problème pour nous, médecins du travail. Alors, ça, c'était un peu ces nanos, comment on les fabrique, à quoi ça sert, etc. Sur les effets. Alors, sur les effets, il y a deux choses. On a beaucoup de données mais vraiment beaucoup de données maintenant sur les mécanismes cellulaires des effets des nanoparticules. On en avait déjà un certain nombre qui provenaient de la connaissance des particules microniques. Il y a toute une littérature extrêmement abondante. On a parlé de l'amiante tout à l'heure, la silice, des oxydes de fer, enfin bref, toutes les particules qu'on rencontre à l'échelon micronique déjà depuis des décennies et qu'on a évaluées. Et on a complété ces connaissances par justement des modèles in vitro avec des particules plus fines, mais de même composition chimique. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de comparer les effets observés sur la cellule ou dans les tissus pour une même espèce chimique, mais d'une dimension micronique ou d'une dimension nanométrique. Et en gros, très très rapidement, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une interaction avec la membrane cellulaire, que cette interaction, alors peu importe le mécanisme de cette interaction, va déclencher toute une cascade d'événements au sein du cytoplasme jusqu'à une activation d'un certain nombre de gènes au niveau du noyau, la principale effet de cette activation va être la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, et donc le primum novens de ce qu'on connaît des effets sur la cellule, c'est la réaction inflammatoire qui va être, enfin la réaction pro-inflammatoire qui va être entraînée, une réaction inflammatoire tissulaire. Bon, et par ailleurs, vous voyez qu'il y a des interactions aussi avec le DNA, et nous avons maintenant beaucoup plus d'éléments qui permettent de comprendre comment cette interaction peut se faire directement entre les nanoparticules et le DNA, en plus des cascades d'événements que nous avons dans le cytoplasme. Alors, fort heureusement, la cellule se défend. Et la cellule est en permanence en contact avec des particules ultra fines. On respire tous les jours des particules ultra fines, ne serait-ce qu'en se baladant dans la rue. Et la cellule se défend. Donc la première étape, le premier niveau d'expression de la cellule, ça va être justement la stimulation des systèmes de régulation antioxydante. Et tant que ces systèmes sont performants, eh bien, il ne se passera rien dans la cellule, c'est-à-dire qu'on a vraiment un seuil en dessous duquel il ne s'observe aucun effet, y compris sur des modèles cellulaires in vitro. Donc, au-delà de ces seuils, en revanche, lorsque les capacités de défense antioxydantes sont dépassées, là vont apparaître les réactions pro-inflammatoires, voire les réactions cytotoxiques, lorsque ces réactions inflammatoires se poursuivent et lorsque les doses augmentent. Donc ça, c'est le modèle in vitro. Il a été appliqué sur de très très nombreuses nanoparticules de composition et de formes chimiques différentes. Je n'y reviens pas. Au niveau des effets cellulaires, des effets tissulaires, par contre, là, on est sur des modèles in vivo, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'animal et on va essayer d'introduire ces nanoparticules par toutes les voies possibles. La voie principale, c'est évidemment l'inhalation, ou en tous les cas la voie respiratoire. Alors l'inhalation, telle qu'on la connaît chez l'homme, de façon exceptionnelle, parce que c'est très difficile d'aérosoliser de façon reproductible des nanoparticules, et a fortiori des nanotubes de carbone, on y reviendra. Donc la plupart des études par voie respiratoire se font par injection intratrachéale, ce qui n'est pas très physiologique et qui entraîne des résultats qui ne sont pas faciles à interpréter. Les autres voies d'administration, on va y revenir, peuvent être les voies entérales, transcutanées ou parentérales. On va y revenir dans un instant. Et globalement, sur cet ensemble de plusieurs centaines de publications qui concernent aussi bien les modèles in vitro que les modèles in vivo, ce n'est pas une publication, hein, c'est plusieurs centaines de publications, on a quand même un certain nombre de dominantes qui ressortent. L'effet respiratoire, ça c'est l'effet qui est le plus souvent rapporté dans la littérature. On le met en jeu par un stress oxydant avec une réponse inflammatoire qui est facilement mesurée par des lavages broncho-alvéolaires ou sur l'histologie. Et la phase ultérieure, c'est la fibrose pulmonaire, avec une question bien entendu qui se pose sur l'existence de cancer. À ce niveau-là, la réponse, c'est nous n'avons pas d'indication aujourd'hui sur les modèles in vivo de cancer respiratoire clairement induit par des nanoparticules. Je parle bien des nanoparticules. En revanche, il y a des réponses génotoxiques qui ont été observées plutôt sur des modèles in vitro, mais maintenant sur les publications les plus récentes, sur quelques modèles in vivo. On a aussi également des publications concordantes sur les effets cardiovasculaires, alors que ce soit les modifications de l'agrégation plaquettaire et de la thrombose, des troubles du rythme, de la perfusion coronarienne et du développement de l'athérome. Il y a un très bon papier qui est sorti récemment sur des oxydes de nickel, oui, qui, sur des modèles adaptés de souris génétiquement prédisposées, développent un athérome tout à fait important. Et puis, il reste beaucoup de questions sur les aspects neurologiques, sur l'impact sur le système immunitaire et sur la reproduction. Je vais en dire juste un mot à partir des facteurs prédictifs. Car une des difficultés que nous avons dans l'évaluation des effets potentiels des nanoparticules, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, il en sort tous les jours de nouvelles qui ont des compositions différentes, qui sont modifiées, qui sont fonctionnalisées par les chimistes, c'est-à-dire qu'on en modifie la surface, etc. Et évidemment, les toxicologues n'arrivent pas à suivre. Et on a un décalage très important entre la production des laboratoires de recherche et l'évaluation sur des modèles même simples comme des modèles in vitro ou un peu plus compliqués comme des modèles in vivo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de travailler aussi sur des facteurs prédictifs qui vont nous permettre de dire, tiens, telle particule qui est synthétisée à telle caractéristique, ça correspond à des facteurs prédictifs, donc attention. Et les facteurs sur lesquels je voudrais juste dire quelques mots, ce sont des facteurs qui sont essentiellement liés à la nature des particules. Évidemment, la dose est importante. Évidemment, la dose est essentielle. Mais, et là, je n'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui, je vous répète que dans le domaine des nanoparticules, nous avons une grande difficulté qui est quelle est la métrologie qui doit être proposée. On a vu que la masse était un mauvais critère. Les concentrations numériques ne semblent pas être le meilleur critère actuellement. Et le critère qui est le plus intéressant, c'est le critère de surface, c'est-à-dire la surface développée de particules dans l'aérosol. Alors, ce n'est pas simple non plus, parce qu'il y a des agrégats de particules. Les particules ont tendance à s'agglomérer. Donc, ça modifie considérablement à la fois les diamètres et les surfaces. Et donc, on a beaucoup de difficultés pour avoir aujourd'hui des relations dose-effet correctes. La seule chose qu'on a habituellement dans les papiers sur les modèles toxicologiques, c'est des relations dose-effet en pondéral, mais avec des particules homogènes, monodispersées. C'est-à-dire que c'est des particules qui ont toutes la même dimension et la même forme. Et donc, dans ces conditions, la masse peut être intéressante. En revanche, si vous vous intéressez par exemple aux particules ultra-fines de la pollution atmosphérique, où là on est sur des aérosols complètement polydispersés, la masse n'a plus aucun sens. Alors j'insisterai simplement sur les quatre paramètres liés à la nature des particules, c'est-à-dire la taille, la réactivité de surface, la forme et la biopersistance. Alors sur la taille, bon là je vais aller très vite aussi parce que vous le connaissez déjà, évidemment, les nanoparticules ont une propriété assez intéressante, enfin très particulière, qui est de tapisser la muqueuse. C'est la probabilité de dépôt qui sont sur la partie gauche des trois schémas au niveau des voies aériennes supérieures, des zones de conduction et de la zone d'échange. Et vous voyez que ces particules ultrafines, ces nanoparticules, vont se déposer partout. Et elles vont en fait tapisser les muqueuses respiratoires depuis la muqueuse pituitaire jusqu'au fin fond de l'alvéole. Elles ont aussi une propriété très particulière, c'est que si vous prenez par exemple du dioxyde de titane de taille micronique, les macrophages alvéolaires vont les phagocyter très facilement. Si vous prenez la même quantité en masse de dioxyde de titane nanométrique que vous le déposez dans l'alvéole, eh bien les macrophages alvéolaires ne vont pas pouvoir gérer cet afflux de particules de très petite dimension. Et la conséquence est une phagocytose contrariée, on va y revenir plus tard, qui est la source de sécrétion de molécules qui vont favoriser l'inflammation au niveau local. Alors bon, je passe là-dessus. On a maintenant beaucoup plus d'informations sur les voies de pénétration à l'intérieur de, des cellules. J'ai un petit souci. Voilà, c'est passé. Par contre, j'insisterai quand même sur une autre notion. Donc ça rentre très bien dans les cellules par des mécanismes autres que la phagocytose. Et ça va contrarier la phagocytose. Ça, c'est une chose importante. Mais ça passe aussi très bien à travers les membranes biologiques habituelles. Là, ici, j'ai figuré la membrane alvéolo-capillaire, où vous avez simplement, vous voyez, c'est cette toute petite membrane. Là, en gros, vous avez une hématie. Ici, vous êtes dans l'alvéole. Et vous avez donc la couche de cytoplasme du pneumocyte de type 1, la couche de membrane basale et la couche de la cellule endothéliale. Eh bien, ça, les particules microniques, ça ne passe pas. On n'arrive pas à faire passer, sauf par la voie macrophagique, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit d'abord phagocyté par les macrophages, ensuite que ça passe par les lymphatiques, et ensuite les lymphatiques arrivent au niveau de la veine cave supérieure, mais ça met des années. En revanche, pour traverser une membrane alvéolo-capillaire, il faut quelques minutes. Alors le flux est probablement très faible, de l'ordre de 1 à 2% de ce qui se dépose dans l'alvéole, mais ce sont des passages qui sont rapides et qui ont été démontrés sur les membranes alvéolo-capillaires, en tous les cas, actuellement. Alors, ça a été démontré aussi à travers donc une autre voie de pénétration qui est clairement établie chez l'animal, qui n'a pas été démontrée chez l'homme, mais qui est clairement établie chez l'animal, qui est le passage à travers les neurones du nerf olfactif. Et vous savez que les extrémités du neurone du nerf olfactif sont libres dans la muqueuse pituitaire. Et comme je vous ai dit que ces particules vont tapisser la muqueuse pituitaire, effectivement, elles vont être en contact avec les terminaisons nerveuses des nerfs olfactifs. Et ce qu'on a montré chez l'animal, c'est que ces particules étaient internalisées à l'intérieur des neurones et à partir de là, suivaient le flux axonal jusqu'au système nerveux central et en particulier au bulbe olfactif. Donc ça a été montré chez l'animal avec en réponse des réactions inflammatoires qui ont été là aussi démontrées chez l'animal. On n'a pas de données chez l'homme actuellement à ce niveau-là. Sur la peau, il y a eu beaucoup de polémiques parce que il y a derrière effectivement une industrie assez importante des cosmétiques et qui utilise beaucoup les nanoparticules. En gros, sur la peau saine, on peut admettre qu'actuellement il n'y a pratiquement pas de passage. En revanche, sur la peau pathologique, là, on a démontré qu'il y avait des passages. Et tout le problème est de mettre une crème barrière antisolaire sur une peau pathologique. Et si vous mettez votre crème barrière après le coup de soleil, a priori, votre peau sera pathologique. Au niveau de la barrière intestinale, il y a beaucoup moins d'études qui sont disponibles parce que ça n'intéresse pas beaucoup les toxicologues, enfin ça ne les intéressait pas beaucoup jusqu'à présent, mais les quelques études qui ont été publiées montrent qu'il y a un passage à travers la barrière intestinale et qu'on va retrouver ces nanoparticules soit dans les ganglions mésentériques, soit dans le système porte. Plus intéressant, et là il y a là encore beaucoup de publications qui sortent actuellement sur ce sujet, c'est les possibilités de passage à travers la barrière placentaire. Ici je reproduis simplement une étude de Sanders en 2009, donc l'année dernière, qui a montré sur un modèle ex vivo de placenta humain que lorsque vous perfusez ce placenta avec des nanoparticules marquées, alors en général c'est des nanoparticules d'or ou des nanoparticules qui sont faciles à repérer, on va les retrouver dans le sang du cordon, donc il y a un passage à travers, sur ces modèles ex vivo, il y a un passage à travers la barrière placentaire. Alors ça c'était vraiment piloté par la taille, donc plus c'est petit et plus ce que je viens de vous dire a de chances de survenir. Après, donc, il y a le problème de la surface, donc j'insiste pas, je vous en ai déjà parlé. Plus la surface d'échange avec les membranes biologiques est grande, et plus la possibilité d'avoir une réaction biologique est importante. Ce qui est plus intéressant, c'est que, ça c'était déjà établi depuis depuis plusieurs années. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit, ces particules, on va les fonctionnaliser. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en modifier les propriétés en rajoutant des radicaux à la surface. Là, par exemple, vous avez une fonctionnalisation avec des radicaux hydroxyles ou avec des radicaux carboxyles. Et là encore, le génie chimique propose des fonctionnalisations très diverses. Je n'ai donné que deux exemples ici. C'est-à-dire que vous partez d'une nanoparticule, ici c'est du fulrène, et vous allez la transformer en la fonctionnalisant. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, c'est sur le petit schéma, sur des modèles in vitro très simples. Hein, on regarde simplement le nombre de cellules qui meurent par quantité de particules. Et ce qu'on voit, c'est que le fait de fonctionnaliser les nanoparticules va modifier la réponse cytotoxique, puisque vous voyez qu'en fonction de la fonctionnalisation, on aura des effets différents. Donc pour une même espèce chimique de départ, et pour une même taille, bien entendu, puisque les fulrènes sont de l'ordre du nanomètre hein, en termes de taille. Autre effet prédictif important, c'est la biopersistance. Et à tel point que les Américains actuellement réservent le terme nanoparticules sur les particules qui sont insolubles. Ce n'est pas encore le cas en Europe et dans les terminologies qui sont utilisées. Mais effectivement, ça veut dire qu'une fois que cette particule a pénétré, quelle que soit la voie d'administration, les tissus, une fois qu'elle s'est stockée dans un organe quelconque, elle va pouvoir y persister longtemps puisqu'elle est peu soluble. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est le concept de biopersistance qui associe la notion de clairance et la notion de solubilité. Alors juste ça, c'est un exemple. Quand on expose des animaux à des particules, à des nanoparticules, ici c'est des nanoparticules de carbone, et quand on regarde plusieurs semaines ou plusieurs mois après ce qui se passe dans les poumons, eh ben on les retrouve. Elles persistent à l'état quasiment inchangé. Ça, c'est du carbone. Le carbone est très peu soluble, sauf quand on le fonctionnalise. Et donc, les nanoparticules de carbone, vous allez les retrouver, que ce soit des tubes. Ici, ce n'est pas des tubes, c'est des sphères. Et vous avez d'ailleurs ce phénomène d'agrégation qui est très démonstratif ici. On a la même chose dans l'air. Ici, c'est dans le poumon, mais c'est exactement la même chose qu'on va retrouver dans l'air. Et alors j'insisterai peut-être un peu sur le dernier facteur prédictif qui est le facteur forme, le facteur qui est la caractéristique de certaines particules comme les nanotubes de carbone. William en a parlé à un instant et c'est clair que pour moi ces nanotubes tubes de carbone, ces nanophiles, ces nanotubes de téflon, de n'importe quoi d'autre, à partir du moment où c'est biopersistant, vont nous poser des problèmes, par analogie effectivement à un modèle qu'on connaît par ailleurs, qui est le modèle fibre. Alors pourquoi ça nous pose des problèmes et pourquoi, là par exemple, j'ai refait la biblio sur l'année 2010, je vais vous donner donc des résultats de l'année 2010, c'est quand même assez intéressant. Alors le nanotube de carbone, donc ça j'insiste pas, vous voyez c'est cette espèce de chaussette qui va partir d'un gaz précurseur qui est généralement du monoxyde de carbone qui réagit avec un catalyseur qui est généralement des nanoparticules métalliques et quand vous mettez la bonne température, la bonne pression, vous allez agencer les atomes de carbone donc sous la forme du graphène. Le graphène c'est cette structure de carbone là, qui a valu le prix Nobel récent là, aux chercheurs russes. Et ce graphène a des propriétés extraordinairement intéressantes sur le plan technologique. Donc les nanotubes de carbone, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement intéressant. Alors, ça pose deux problèmes. Ça pose le problème d'abord que... Alors ça peut être multiparois ou simple paroi ou multiparois, peu importe, hein, c'est des chaussettes qui s'empilent les unes derrière les autres. Mais vous voyez sur ces diapos que ça a une caractéristique tout à fait évidente en microscopie électronique à transmission, c'est que c'est très fin, très allongé, et ça rappelle des choses. Et ce qu'on ne voit pas bien ici, et ce qui complique un peu notre analyse, alors on voit bien que c'est très enchevêtré, et que pour l'analyse toxicologique, ça nous pose des problèmes énormes, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la pelote, mais c'est les filaments qui sont dissociés les uns des autres. Or, l'industrie chimique s'évertue actuellement à dissocier les pelotes qui sont fabriquées, qui sortent des fours. Parce que les propriétés technologiques sont beaucoup plus intéressantes quand les pelotes sont dissociées que quand elles sont sous forme d'agrégats. Et très souvent dans les discussions qu'on a avec les industriels, on a une espèce d'incompréhension. Les industriels nous disent « mais nous on fait des pelotes, ça risque rien, de toute façon c'est énorme les pelotes, ça fait plusieurs dizaines de microns de diamètre et ça se dissocie jamais ». C'est pas vrai. En fait, ils les dissocient et nous on a appris sur le plan, sur les modèles expérimentaux, à les dissocier. Donc ça peut se dissocier. Donc une des difficultés quand on lit la littérature toxicologique, c'est de savoir si on travaille sur ces espèces de pelotes, ce qui n'a aucun intérêt, ou si on travaille sur des particules qui ont été dissociées. L'autre difficulté, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un support de nanoparticules métalliques qui était l'agent catalyseur, et très souvent, dans les produits finis qui sont commercialisés, il y a des impuretés à type métallique qui sont en fait des résidus de catalyseurs qui sont dans les tubes et ces catalyseurs, ces métaux peuvent induire une réponse toxique. Donc il faut savoir quelle est la part du nanotube et quelle est la part des impuretés. Alors juste ici pour mémoire, hein, vous avez ici c'est de l'amiante et si vous prenez par exemple le chrysotile. Vous voyez que le chrysotile, sur la même échelle, c'est quelque chose qui est extrêmement ressemblant en termes de forme, c'est-à-dire donc des particules plus ou moins flexueuses. Le chrysotile, c'est très flexueux, le chrysidolite, c'est beaucoup plus allongé. Et voilà. Et la base, merci Rachid, la base de la connaissance qu'on a sur cet effet fibre, c'est cette diapo. Cette diapo qui résume un petit peu l'essentiel, enfin la chose la plus importante, c'est-à-dire que lorsque les fibres sont très longues, alors que ce soit des nanotubes de carbone ou que ce soit des fibres d'amiante, les macrophages ou les cellules épithéliales ne peuvent pas phagocyter ces objets. Et donc on a ce qu'on appelle une phagocytose contrariée ou une phagocytose incomplète qui est le primum novens de la réaction inflammatoire. Donc on savait ça depuis très longtemps avec l'amiante. Ici, c'est un corps asbestosique sur du chrysotile. Mais maintenant, on a la certitude, là c'est une publication de 2010, sur des cellules épithéliales, qu'on a exactement le même phénomène avec des nanotubes de carbone. Ici, c'est une cellule épithéliale avec un nanotube qui est assez rigide parce que c'est un multiparoi. Autre élément extrêmement important, ce qu'on sait, c'est que ce qui pose problème au niveau de l'amiante, c'est beaucoup le passage vers la plèvre. Or, ce qu'on a montré aussi en 2010, et depuis 2009, les publications commencent à sortir, c'est qu'on a un passage de ces nanotubes dans la cavité pleurale. Ici, vous êtes à la jonction sur la plèvre viscérale. Les cellules avec les microvisualités sont des cellules mésothéliales. Et en haut, vous êtes dans la cavité pleurale. Donc, ça passe dans la plèvre. Ça a été démontré, et avec des nanotubes de carbone, en tous les cas, suffisamment rigides, qui sont les nanotubes de carbone multiparoi. Ça donne aussi des réponses inflammatoires sous-pleurales. Ici, on est sur la plèvre viscérale. Donc, vous voyez, il y a des réactions de fibrose ou des réactions de granulome qui sont liées au passage par voie aérienne. Donc là, on est bien par voie aérienne. Et quand on injecte directement les nanotubes dans la cavité pleurale, eh bien, si ces nanotubes sont dissociés, on a les deux images qui sont à l'extrême droite. Et les deux images qui sont à l'extrême droite, c'est la plèvre pariétale. Et ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle une plaque pleurale. Et c'est absolument identique à la plaque pleurale qu'on a sur les pathologies liées à l'amiante. Par contre, sur les diapos de gauche, ce sont des nanotubes qui sont complètement recroquevillés et qui n'entraînent aucun effet. Donc, lorsque le nanotube est rigide, vous avez ces réponses. Lorsque le nanotube est complètement recroquevillé, comme en particulier les simples parois, vous n'avez pas la réponse. Dernier élément, le mésothéliome. Et là aussi, entre 2008 et 2010, on a un certain nombre de publications qui ont démontré l'induction de mésothéliome, mais par des voies d'administration extrêmement discutables, puisque c'est soit des injections intrapéritonéales, soit des injections intrascrotales. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas très physiologique, mais je rappelle quand même que c'est comme ça qu'on a démontré les premiers effets, qu'on a pu démontrer, confirmer les premiers effets avec l'amiante. Et une de mes collègues, Marie-Claude Joran, faisait un petit peu la synthèse en 2009 des données disponibles dans la littérature en comparant étape par étape, hein, depuis l'internalisation jusqu'au cancer, la réponse qui était observée actuellement dans la littérature entre l'amiante et les nanotubes de carbone, en particulier les plus rigides. Et vous voyez qu'il y a des oui partout, sauf à la dernière ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas actuellement pu induire de cancer par inhalation chez l'animal. Alors, je passerai sur les données humaines parce que ça n'a pas d'intérêt, et puis Rachid va me rappeler à l'ordre, si ce n'est juste pour vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de données humaines. Les seules données qu'on a, c'est des données anglo-saxonnes où, là, ils n'ont pas peur, ils mettent des individus dans des chambres d'exposition avec des particules de carbone, des particules ultrafines de carbone, à des concentrations qui sont de l'ordre des concentrations de celles qu'on a dans la pollution atmosphérique. Et pourquoi du carbone? Parce que c'est les principales sources de pollution liées aux moteurs diesel en particulier. Et la seule chose que je vous dis, c'est qu'il y a effectivement à 50 microgrammes par mètre cube, dans ces modèles expérimentaux, où l'homme est son propre témoin, on a des réponses. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'ils sont malades, mais je dis que le système biologique répond. Donc, soit au niveau local, c'est-à-dire au niveau pulmonaire, soit au niveau translocation, puisque ça passe la barrière alvéolo-capillaire, soit au niveau sanguin, puisqu'on a des réponses aussi sur le système sanguin, donc des réponses systémiques. Donc, et là, je reprends un petit peu la discussion qu'avait William en introduction. Nous, ce qu'on avait dit en mai 2006, donc ça fait déjà 4 ans que ça avait été écrit, c'est que, bon, compte tenu de toutes ces données animales, on considère, nous, qu'il y a un danger au sens où, effectivement, il y a une réponse biologique avec des effets qui sont observés en particulier sur des modèles in vivo. Mais en revanche, on n'a aucun élément qui permette d'évaluer un risque chez l'homme, puisqu'il n'y a aucun recul et il n'y a pas de données ou pratiquement pas de données chez l'homme. Alors, et là aussi, je reprends la discussion qu'on avait avec William, Les conclusions de notre groupe avaient été de proposer d'appliquer le principe de précaution, justement, en particulier là où le problème est le plus sensible, c'est-à-dire dans la population au travail. Et toutes ces recommandations étaient essentiellement destinées aux recommandations à faire en milieu de travail, donc dans les unités de fabrication qui produisent maintenant des quantités de plus en plus importantes de nanotubes. Alors, ça touche aussi la population générale, éventuellement, typiquement les nanoparticules qui sont dans les produits cosmétiques, mais les concentrations qui sont observées n'ont absolument rien à voir. Et effectivement, s'il y a une priorité à avoir pour nous, en tous les cas, c'est la priorité au niveau du travailleur. Et je terminerai juste par ce petit schéma qui me semble tout à fait résumé un peu et de façon intéressante la discussion. Je vous ai dit que, bon, ce qui nous préoccupe, c'est avant tout les nanotubes de carbone. Les nanoparticules d'argent, effectivement, on commence à en mettre absolument n'importe où, en particulier dans les chaussettes, dans les vêtements, etc. Est-ce bien raisonnable de mettre des nanoparticules d'argent pour une application dont l'intérêt est quand même assez limité? Bon, il suffit de laver les chaussettes et a priori, vous aurez les mêmes effets. Donc là, effectivement, d'ailleurs, on a saisi le Haut Conseil de Santé publique pour l'alerter sur des applications qui nous semblaient complètement aberrantes, un peu comme autrefois les grille-pains à base d'amiante. Bon. En revanche, effectivement, il y a des applications qui sont des applications absolument essentielles pour les développements, en particulier médicaux, dans les applications nanomédecine, et je pense sur la partie nanotube. Et ici, donc, il y avait un excellent papier là, qui avait été publié l'année dernière sur justement la balance entre effets bénéfiques et effets toxicologiques attendus pour les CNT, c'est les carbone nanotubes. Et vous voyez que d'un côté, effectivement, c'est la face sombre avec ce qu'on vient de vous dire, y compris allant jusqu'au mésothélium. Et de l'autre côté, c'est « ah oui, mais on arrive à les fonctionnaliser ». Et quand on les fonctionnalise, on a moins d'effets toxicologiques et on a les effets bénéfiques attendus comme facteurs thérapeutiques, facteurs d'imagerie, etc. Seul problème, c'est que la fonctionnalisation, elle n'est pas permanente dans les tissus, et que quand vous avez fonctionnalisé artificiellement une particule en greffant des radicaux sur cette particule dans un laboratoire, une fois que cette particule est dans les tissus, les radicaux qui ont été greffés peuvent disparaître, et à ce moment-là, la particule reprend ses caractéristiques initiales, c'est-à-dire de particules non greffées. Voilà. Je ne veux pas... Voilà. Conclusion... Ma conclusion, ça, je préfère vous la laisser. Je pense que je vous ai donné tous les éléments. Sur le plan médecine du travail, c'est clair que nous avons, nous, des conséquences très pratiques à avoir. Sur le plan de la recherche toxicologique, c'est clair qu'il faut absolument développer cette recherche toxicologique. Et contrairement à ce qu'on vient de dire sur les champs électromagnétiques, là, il y a encore beaucoup de choses à faire et on souhaite qu'il y ait beaucoup de laboratoires qui s'y impliquent. Moyennant quoi, et c'est mon dernier mot, je répète que dans tous ces domaines-là, ce qui compte, c'est la relation dose-effet et que cette relation dose-effet, en fait, elle est très mal connue aujourd'hui. On a des réponses qualitatives. On a peu de réponses quantitatives parce que la mesure de la dose est une mesure qui est difficile et qui n'est pas encore correctement adaptée, en particulier dans le milieu de travail. L'INRS travaille beaucoup là-dessus, mais on n'a pas encore la solution. Et pour le moment, on est toujours en pondéral, ce qui ne veut rien dire pour les particules ultra-fines. Rachid, je m'arrête.
Vas-y. Je ne serai certainement pas la seule à exprimer une inquiétude. Je pense qu'il y a de quoi. Et ce qui inquiète fortement les consommateurs, c'est qu'actuellement, ça semble l'anarchie la plus totale au niveau des utilisations industrielles. Et je voudrais poser la question au niveau de la réglementation. Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce qu'il y a quelque chose pour contrôler toutes ces utilisations? Il y a eu une colonne très intéressante en mauve qui est passée rapidement, qui montrait en 2010 une explosion des utilisations. Et il y avait marqué « autres ». Et nous, les utilisations qui nous inquiètent encore plus que la cosmétologie, c'est dans les additifs alimentaires, tout ce qui touche à l'alimentation. Vous avez évoqué un peu la traversée de la muqueuse intestinale, parce que là, c'est encore du quotidien, et là, ça va toucher toutes les catégories de la population. Je comprends qu'on s'inquiète d'abord des professions professionnelles, mais je pense qu'il y aura de sérieux problèmes si on ne fait rien au niveau de la population entière.
Alors, oui, tout à fait, vous avez raison que là, actuellement, donc, il y a un travail qui se fait aussi bien d'ailleurs en France qu'au niveau de l'Union européenne. En France, donc, les agences, en particulier l'ANSES, est très mobilisée sur la réflexion en termes donc, d'évaluation des effets potentiels de ces nanos. D'autres agences ou instituts travaillent beaucoup aussi dans ces domaines-là, que sont l'INRS pour la partie milieu professionnel et l'INERIS pour la partie environnement général. Et je ne parle pas du CEA ou du CNRS. Alors le CEA et le CNRS ont une position qui est un petit peu plus délicate parce qu'ils sont à la fois producteurs et chercheurs aussi des effets. Donc ils travaillent sur les deux volets en même temps, mais ce qui est intéressant, et moi je trouve que c'est très, très, très positif, à condition qu'on dise aussi bien les choses. Par ailleurs, au niveau de l'Europe, donc il y a comme vous le savez, REACH a beaucoup de mal actuellement à gérer le problème des nanoparticules. REACH est adapté sur les espèces chimiques, et par contre, la forme physique de ces espèces chimiques n'est pas encore correctement prise en compte dans REACH. Il y a en ce moment, au niveau de l'Union européenne, une réflexion justement très importante pour apporter la réponse à ce décalage entre l'espèce chimique et puis la forme physique de l'espèce chimique. Et il y a des travaux qui sont très intéressants et qui sont en train de sortir. Parmi les recommandations, effectivement, il y avait au moins une recommandation d'information qui avait été demandée sur la traçabilité des produits qui étaient susceptibles de contenir des nanoparticules, puisque ça, c'est quand même le primum novum. Il faut absolument qu'on sache où ces nanoparticules sont utilisées. Après, il y aura effectivement, et j'ai dit que le Haut Conseil de Santé Publique s'était aussi emparé de cette question, est-ce qu'il y a des applications qui sont légitimes ou d'autres qui ne le sont pas? Et vous parliez des additifs, des aliments. Effectivement, il y a beaucoup d'arguments pour l'utilisation de nanoparticules dans la protection de la population concernant les risques toxi-infectieux, qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui que les risques hypothétiques liés aux nanoparticules. Et donc, c'est là où il faut, je pense, avoir cette balance très claire entre les effets bénéfiques attendus et puis les éventuels problèmes qui sont associés. Mais aujourd'hui, c'est clair que les toxi-infections sont infiniment plus problématiques que les éventuels passages de nanoparticules dans les aliments. Je ne dis pas qu'il faut en mettre, hein. Je dis qu'il faut l'évaluer et que la décision devra être prise en fonction. Il y a peut-être d'autres systèmes qui permettent de régler le problème des toxi-infections, puisque c'est essentiellement pour la conservation, hein, que c'est utilisé.